m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue au Restons Courtois du jeudi, le Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore, journaliste au service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Marc.
Et nous sommes avec Rodolphe Thiard. Rodolphe Thiard, vous êtes journaliste indépendant, vous contribuez notamment à la revue Élément, à Front Populaire et vous avez un podcast chez Omerta. On recommande en tout cas aux auditeurs de s'y rendre parce que les sujets sont généralement, très souvent, tout le temps même, extrêmement intéressants. Beaucoup d'invités, beaucoup de sujets ce soir, chers amis, puisque nous allons parler avec Rodolphe et Valentin, bien évidemment, de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, la grande surprise de la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui rejoint le club très fermé de ceux qui totalisent au moins 4 candidatures à l'élection présidentielle. À 18h15, nous recevrons France Gouttière qui revient avec une enquête passionnante sur une disparition à Nantes, une agricultrice qui disparaît, son compagnon et sa fille qui fuient en Algérie, bien évidemment, une enquête dramatique qui en dit long sur l'état de la société française. À 18h30, nous recevrons le criminologue Xavier Hofer, auteur notamment de l'affaire Epstein, d'un livre sur l'affaire Epstein, Epstein, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du Cerf. En effet, aujourd'hui, un juge américain il a pris l'initiative de sortir une lettre présentée comme écrite par Jeffrey Epstein annonçant sa volonté de se suicider, une manière de répondre aux rumeurs et aux théories qui circulent bien évidemment sur le net. Et à 19h, nous recevrons Éric Morillo, le journaliste co-auteur de Les Intouchables de l'audiovisuel public, un premier bilan finalement de la commission à l'oncle, de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Mais tout de suite, chers amis, un premier sujet, puisque chez nos confrères de France Culture, Monsieur Herner a eu la bonne idée de recevoir le milliardaire Mathieu Pigasse à propos du succès insolent de Radio Nova et Herner l'interrogeait sur un sketch de l'humoriste Hakim Omiri. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de ce sketch.
Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Que vous voulez pas qu'il y ait d'enquête parlementaire sur les pédocriminels complices de l'État ? Bah après c'est un métier hein. Donc, pour Yaël, qui, je le rappelle, au passage, a annoncé son soutien inconditionnel à Israël, pour elle, l'affaire Epstein, agent du Mossad, c'est pas important. Yaël, elle a plus peur des musulmans que des pédocriminels, apparemment.
Voilà, donc Yaël, évidemment, Hakim Omiri fait allusion à Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Ce sketch qui s'est déroulé sur l'antenne de Radio Nova avait beaucoup fait hurler en interne, notamment en raison évidemment de relents antisémites. En tout cas, ce sketch n'a pas fait rire et écoutez la justification de Mathieu Pigasse, un petit peu pris au piège.
Écoutez, j'ai été, je pense, d'une clarté totale sur l'antisémitisme, à titre personnel,
mais
vous en êtes convaincu. Et sur notre antenne.
Je n'en suis pas convaincu pour Hakim Omiri.
D'abord, c'est à lui qu'il faut poser la question. À nouveau, contre ça drôle ou pas drôle, je peux ne pas trouver ça drôle, mais j'accepte la liberté d'expression. Écoutez, n'y passons pas des heures.
Je ne veux pas y passer des heures, même si c'est un sujet qui,
mais c'est un sujet qui m'est, moi aussi, très sensible, Guillaume Herner.
Au-delà de ça, je suis sûr que vous avez une ligne politique très cohérente. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir ce genre de type?
Ma ligne politique sur ce sujet, et je vais vous en donner une illustration, c'est la liberté d'expression.
La liberté d'expression à tout prix, Mathieu Pigasse, fervent défenseur de la liberté d'expression. Mathieu Pigasse qui ne désavoue pas en tout cas ce sketch d'Hakim Omiri. La gauche prise un peu à son propre piège, Rodolphe Thiard.
Oui, première remarque, dans le sketch qu'on a entendu, la première phrase, c'est une reprise aussi de La vérité si je mens, il me semble, une scène avec José Garcia, notamment. Et petite aparté, ça me fait toujours rire, parce que parfois, c'est un peu comme les films, vous savez, de guerre.
Alors, La vérité si je mens, juste pour préciser, pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément vu le film, c'est une comédie qui moque un petit peu les mœurs juives parisiennes des années 90. Donc, il y a une référence, évidemment, à une religion précise.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Et ça me fait rire, parce qu'à l'époque, c'était François Truffaut qui avait dit justement que parfois les livres, enfin comment dire, les films anti-guerre étaient des films justement pro-guerre. Et des fois, c'est intéressant de voir le sens des films, comme tu l'as très bien dit, Marc, qui se retournent contre eux-mêmes. Et donc, pour revenir à notre affaire avec Mathieu Pigas, ce qui est intéressant, c'est que Radio Nova, par contre, a une grosse phase de croissance. Ils ont repris pas mal, en tout cas, de parts de marché à France Inter. Et justement, la ligne, c'était un peu de reprendre tous les énervés de France Inter qui se sont fait mettre dehors. Je crois qu'il y a Guillaume Meurice aussi.
Guillaume Meurice, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, Jamil Lechlag. Enfin, en tout cas, toute la bande, effectivement, la bande à Charline, entre guillemets.
Ouais. Exactement. Et donc, si on peut faire un petit parallèle avec Mélenchon, même s'il n'y a pas de lien direct, c'est intéressant, c'est que par contre, quand on reprend tous les affreux, et je pense, par exemple, un peu à la jeunesse, un peu, comment dire, effarouchée, justement, de la France insoumise, c'est que parfois, comment dire, les jeunes créatures échappent un peu aux maîtres, aux démiurges Pigas ou Mélenchon dans un côté. Donc voilà, il essaye un peu de rattraper les pots cassés, mais on sent bien qu'il a un peu, comment dire, gêné aux encournures.
Valentin Gore.
Ça m'amuse un peu d'entendre France Culture comme ça s'ériger en arbitre des élégances. Moi, j'ai quand même souvenir, vous avez cité Guillaume Meurice, de multiples dérapages qui ont eu lieu aussi, pas tellement sur France Culture, il n'y a pas beaucoup d'humour sur France Culture, ou alors c'est involontaire parfois, mais plutôt sur France Inter. On a évoqué Guillaume Meurice, mais c'est assez souvent, je ne vais pas répéter, parce que souvent c'est un langage ordurier, je pense notamment à l'émission Maintenant le matin de Nagui, la bande originale, où il y a des polémiques très souvent qui sont... Qui n'ont rien à enlever à celles que vous avez citées. Ensuite, c'est la question de l'humour. Monsieur Pigas, il a une ligne un peu particulière parce qu'il essaie d'être, j'allais dire, une jambe encore dans cette gauche socialiste un peu établie, puis une gauche dans cette, une jambe dans cette gauche insoumise. C'est un positionnement difficile à tenir.
Social-démocrate à la ville et, et un petit peu plus extrême.
Voilà. Et qui se caractérise même par l'adresse, puisqu'il est. Ces locaux sont situés, je crois, à boulevard de Clignancourt, dans un quartier assez défavorisé de Paris. Et François Bousquet a montré que lorsqu'il est passé devant, lorsqu'il s'est rendu, il a constaté que c'est des locaux absolument barricadés. C'est-à-dire, certes, on est dans un quartier populaire pour faire gauche, mais on a des vigiles, des portiques et tout ce qu'il faut pour surtout ne pas trop se mêler à la population locale.
Oui, d'ailleurs, François Bousquet avait fait l'objet, enfin, avait été largement conspué par la gauche lorsqu'il avait fait cette remarque en disant. Je cache de tête qu'il y avait effectivement aucun blanc aux portes de Clignancourt et qu'il fallait aller justement passer les murs de Radio Nova pour en trouver. Alors je rappelle surtout, chers auditeurs, que cette émission est évidemment aussi la vôtre, que vous pouvez réagir à cette émission au 01 46 51 00 85 ou par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr. N'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous poser vos questions et nous y répondrons bien évidemment. Il y a quelque chose qui est assez amusant avec cette initiative de Mathieu Pigas, puisque est-ce qu'il est prêt à assumer justement cette nouvelle gauche, en quelque sorte, ces nouveaux référentiels, ces nouvelles obsessions justement sur la question de la Palestine, d'Israël, de l'antisémitisme. Est-ce qu'il la conscience, d'après vous, d'après toi, Rodolphe, de ce qui est en train de se jouer?
Là, je pense qu'il essaye un peu de sentir le temps et l'époque. On va parler après de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que notamment, un des desseins, ou en tout cas une des aspirations de Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment de revenir dans les années à venir, on va dire, dans une reconfiguration politique vraiment tranchée, bloc de gauche, bloc de droite. Et je pense justement que Mathieu Pigas s'inscrit là-dessus. Il pense que justement, la bataille culturelle se joue en assumant... comment dire, un peu cette bataille. Alors c'est toujours la mythologie antifasciste, etc., etc. Cet éternel recours à l'entre-deux-guerres, à l'époque de l'entre-deux-guerres. Mais qui est intéressant,
parce que ça évite de se redéfinir soi-même aussi, en fait. Hein. C'est ça.
Exactement.
Qui est pratique.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait vu notamment avec les incohérences entre la Jeune Garde et la France Insoumise, qui est une volonté de faire un bloc de gauche, comment dire, assez unitaire, qui mélange à la fois le combat politique, la société civile et, on va dire, l'impact de rue. Donc là, je pense que Mathieu Pigas pense, ou en tout cas, je pense qu'il se voit comme justement, lui, l'incarnation demain de ce pôle de la bataille culturelle. Et il sait que ça se joue en protégeant comme ça ces petites brebis galeuses qui le sont aujourd'hui, mais peut-être qu'ils demain seront justement des pourfendeurs culturels du fascisme. Donc je pense qu'il mise un peu sur l'avenir. Il sait que, comment dire, ces joyeux lurons vont peut-être un peu lui échapper pendant un certain temps, mais que demain, justement, cette opposition frontale on va dire, à la menace fasciste, bah ça le servira, je pense.
En tout cas, il y en a un qui a vécu un petit peu cette dichotomie. C'est le alors vous, chers auditeurs, je pense que vous ne le connaissez pas, mais il est assez connu sur les réseaux sociaux. C'est Ilan Gabay, militant insoumis de confession juive, assez sensible aux questions antisémites justement. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il avait fêté, comme tout le monde, la victoire du Paris Saint-Germain hier soir dans Boulogne, et qu'il a été témoin. Alors je ne sais plus vraiment s'il était la cible personnelle ou témoin d'insultes antisémites. Et c'est terrible parce qu'il y avait un petit peu justement cette espèce de retour de réalité en pleine figure d'une gauche, puisqu'il racialise, on va dire les termes, d'une gauche blanche en fait qui n'a pas conscience que peut-être au fond le temps du porte-parole est terminé, Valentin Gore.
Oui, certainement. On l'a vu à l'occasion des dernières municipales. Sur l'anecdote que vous citez, j'aurais rien à dire de particulier parce que j'ai pas très bien compris ce dont il s'agissait. Mais pour redire un mot sur Mathieu Pigas, vous parliez de la bataille culturelle. Il y a quand même une limite à cette stratégie, c'est que faire des émissions d'humour qui peuvent être assez tapageuses, tout ça c'est très bien, mais est-ce que vraiment on forme les gens, même de son point de vue, sur le fond? Parce que la politique c'est quand même du sérieux, on peut pas se contenter comme ça de se marrer et d'être dans cette espèce d'esprit vraiment en noir, en plus cet humour qui est vraiment méchant au-delà d'être vulgaire. Donc je crois que la stratégie de Monsieur Pigas elle est quand même plus ou moins vouée à l'échec à long terme. Je crois qu'il amuse les gens de la gauche radicale, je vois pas très bien sur quoi ça peut déboucher.
Mais justement, c'est intéressant parce que le monsieur là qui fait le sketch, je sais plus son nom, c'est
Thibaut Miry.
Voilà, exactement. Et moi j'ai été dans un de ses sketchs, il m'a mentionné parce que j'avais fait une saillie sur Jean-Luc Mélenchon. Et là où on voit, il n'empêche, l'impact, c'est que justement, je vais dans ma boulangerie habituelle et la serveuse de la boulangerie avec qui j'avais noué des liens d'amitié parce que j'y vais de manière quotidienne, comme vous pouvez le penser, m'a dit « Ah, je vous ai vu dans une émission ». On m'avait donc vu dans cette émission. Et je peux vous dire, en toute honnêteté, que depuis, nos relations sont beaucoup plus froides, elle est beaucoup moins avenante. Et en plus, deuxième point, j'ai déjà vu plusieurs fois des personnes scroller ou écouter les sketchs de ce monsieur. Et on sait à quel point la bataille de l'humour, elle est assez importante. Moi qui ai fait justement un livre sur le mouvement des Nicolas qui paient, on sait que c'est parti d'un mème, qui est donc une image représentative d'une situation. Et en réalité, faire passer un slogan ou ce genre de choses, c'est peut-être la chose vraiment la plus difficile dans l'ordre de la bataille culturelle, parce que c'est le mot qui va être pris par tout le monde, et notamment parfois par, on va dire, un public un peu moins politisé. Donc moi, je minimiserai absolument pas le côté de l'humour, qui est vraiment une arme pour le coup, même si là on voit que les rires préenregistrés font un peu tache, je trouve.
Alors, à titre personnel, alors honnêtement, j'ai jamais... Je suis quelqu'un très éclectique, donc il m'arrive d'écouter justement ces humoristes. Et autant Hakim Omeri me fait très rarement rire, voire ne me fait pas trop rire, mais c'est vrai que le trio Barré, Lomprey, Meurice, alors c'est un humour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment des opinions politiques que je pense qu'on ne partage pas spécialement, mais il faut reconnaître qu'il y a une énorme efficacité,
bien sûr.
Qu'il y a une symbiose entre les trois, qu'il y a un jeu de ping-pong qui marche extrêmement bien. Et c'est là où on voit peut-être la droite en fait a 50 trains de retard sur la question de l'humour, et l'humour politique en quelque sorte.
Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes Ilan, parce que Ilan, il a fait un tweet pour dire qu'il avait entendu des insultes, si j'ai bien compris,
absolument.
C'est ça. Et justement, il me semble qu'hier, il avait fait aussi un tweet en montrant des supporters du Paris Saint-Germain avec un drapeau palestinien, en disant le sport c'est aussi de la politique. C'est peut-être inconfirmé, mais il me semble avoir vu aussi passer ce tweet, donc ça montre bien une fois de plus le serpent qui se mord un peu la queue.
On va quitter le terrain de l'humour parce qu'on va aller sur quelque chose d'un peu moins réjouissant mais de tout aussi intéressant. En tout cas, ça concerne largement l'avenir de la France. Fin du suspense, donc suspense, le moins suspense du monde bien évidemment, puisque Jean-Luc Mélenchon rejoint le club très fermé, on l'a dit, des quadruples candidats à l'élection présidentielle. JTTF1, 20h, ton très calme, très posé. Un seul candidat, un programme, chez nous c'est carré. Valentin Gore, déjà sur la forme, cette annonce présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, extrêmement classique.
Très classique d'abord sur TF1, un peu moins ensuite puisqu'il est allé sur le média Brut, qui est un média numérique assez longuement. moins classique ensuite, puisqu'il a refait cette conférence de presse à l'usage, à l'attention des nouveaux médias, comme il les appelle, qui sont toutes
pudiquement nommés nouveaux médias.
Et de gens qui sont quand même souvent très proches de ses positions et qui sont sur Internet.
Ils sont complètement encartés
chez
lui, d'ailleurs.
Pour certains, beaucoup encartés chez lui. Vous l'avez dit, alors c'est plutôt une réussite, malgré tout, parce que c'est vrai qu'il en joue, vous l'avez dit, avec cette expression « c'est carré », qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le seul qui est prêt aujourd'hui. Voilà, les deux autres camps, évidemment, du côté du RN, on attend le verdict du procès de Marine Le Pen.
On sait qu'il sera en tête au premier tour, mais on ne sait pas si ce sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella, si on en croit les sondages.
C'est possible, qui vivra verra, c'est tout à fait possible, en effet, c'est même le plus probable. Et puis évidemment, entre les deux, dans ce camp qui est supposé être celui de la raison, Jean-Luc Mélenchon a quand même raison de pointer qu'il y a une espèce de folie furieuse, où les candidatures fleurissent absolument comme les champignons après la pluie. Donc lui, de son point de vue, surtout à gauche, là où il se place, lui, il va pouvoir avancer tranquillement, avoir le temps. Il a raison de rappeler qu'on est à moins d'un an du second tour, comme il insiste, de la présidentielle, et que c'est vrai que c'est un peu étrange que deux des trois grands blocs politiques ne semblent encore pas prêts et n'ont pas encore démarré vraiment la campagne.
C'est carré, au fond c'est ça la force de Jean-Luc Mélenchon, Rodolphe Carr. Alors il a été désigné pour la forme officiellement bien évidemment par la France Insoumise. Il n'y avait pas de suspense. Voilà, c'est pas bon. Bref, on va pas faire de références historiques, mais
la cote n'était pas très haute pour les amateurs de paris sportifs.
Je crois que Jean-Luc Mélenchon a été nommé candidat au détriment de JLM, qui n'a fait 48% des voix. C'est carré. On sait à quoi s'attendre. Il y a une ligne. Est-ce que c'est pas ça la force de Jean-Luc Mélenchon? C'est carré et il y a une ligne claire.
Bien sûr, il y a un candidat, un programme et derrière une base qui lui est complètement dévouée. Pour tout vous avouer, vraiment, quand j'ai vraiment essayé d'analyser le mouvement de la France Insoumise, pour moi, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est, si ce n'est le meilleur, c'est l'organisation politique la mieux organisée,
c'est le plus efficace, pour
la conquête, du pouvoir. Et peut-être aussi quelque chose qui fait que Jean-Luc Mélenchon a aussi un train d'avance sur les autres, c'est qu'il ne prépare pas le second tour avant le premier. Il a un seul objectif. Pour l'instant, son parti est fait pour un seul objectif, en tout cas sa stratégie et sa ligne, c'est l'accession au premier tour. Ne jamais oublier que Jean-Luc Mélenchon a été un traumatisé de 2002. Il faisait partie de l'équipe du Parti Socialiste. D'ailleurs, on peut voir sur certains documentaires qui traînent sur YouTube, des vieux documentaires où on voit déjà à l'époque des personnalités comme François Hollande aussi, qui avait senti venir la chose comparé à d'autres. Et lui, justement, a aussi retenu la leçon.
Il y avait cette réunion de campagne, ça a été filmé effectivement par les caméras de France 2, cette réunion de campagne dans l'entre-deux-tours où alors le monsieur sondage, le monsieur opinion du Parti Socialiste, alors qu'il n'a pas laissé son nom dans l'histoire
Gérard
du PS.
Gérard Le Gall.
Merci, bravo, Valentin Gore, notre Wikipédia, Wikipédia géant. Donc Gérard Le Gall, qui prend la parole et qui dit il n'est toutefois pas à exclure que Jean-Marie Le Pen soit au second tour. Et là, on a vu tous les barons socialistes autour, n'importe quoi, tu dis vague, c'est impossible, etc. Et on a vu ce que ça avait de donner. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon, vous avez raison, fait partie des traumatisés de ce premier tour.
Bien sûr, et donc vraiment, la France Insoumise, aujourd'hui, c'est la fusée électorale qui doit lui permettre d'accéder au premier tour. Pas forcément de gagner le second. Je pense que là-dessus, ils ont fait un peu une croix dessus, quoique... Il continue à jouer quand même un peu la mythologie. Il pense beaucoup qu'il y aura, une réplique antifasciste. Il joue énormément là-dessus. D'ailleurs, les attaques contre Jordan Bardella en le qualifiant de pétainiste. En tout cas, on sait ce sur quoi ils jouent s'ils accèdent au second tour. C'est-à-dire, c'est eux ou nous, c'est Hitler ou le Front Populaire. Toujours cette mythologie de l'entre-deux-guerres qui est vraiment lancinante. D'ailleurs, suffit de voir leur spécialiste en question du Troisième Reich, Monsieur Chapoutot, qui est vraiment devenu le spécialiste.
Monsieur Delogu aussi.
Monsieur Delogu, mais Johann Chapoutot, c'est quand même quelque chose parce que pour quand même un universitaire qui était reconnu, j'ai envie de dire, de manière transpartisane, aujourd'hui, on le voit tous les deux jours aller faire une vidéo sur Blast pour dire voyez, là, il y a une évocation, un parallèle. Donc, je pense que malheureusement, il est en train un peu de se ridiculiser là-dessus. Mais en revanche, la France Insoumise aujourd'hui comporte un groupe parlementaire sérieux. Ils ont aussi un institut de formation avec l'Institut de la Boétie qui fait ce lien avec le monde universitaire. Et ça, c'est peut-être, si on fait le pendant avec le Rassemblement National, ce qu'on n'a pas encore à droite, c'est qu'on a des universitaires ou des personnalités, je pense par exemple à Piketty, qui osent s'afficher de manière éhontée comme ça avec la France Insoumise et notamment via le truchement de l'Institut de la Boétie. Et ensuite, c'est une logistique impressionnante, c'est une stratégie stratégie numérique largement aussi en avance sur les autres parties. Enfin, moi aussi, je me suis rendu compte à quel point, dès 2012 et dès 2017, ils investissent à fond le numérique, justement, parce qu'ils savent qu'il y a une partie de leur électorat, notamment jeune, qui est sur ce point-là. Donc oui, aujourd'hui, la seule question, par contre, c'est est-ce qu'ils ont assez de carburant pour accéder à cette première destination du premier tour ?
Mais on en revient, finalement, Jean-Valentin Gore. D'ailleurs, je rappelle simplement, chers auditeurs, pardon, que vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, que vous pouvez intervenir à cette émission en envoyant vos questions à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Nous parlons bien évidemment de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, Valentin Gore, d'autres partis s'y sont essayés. On sait que le Rassemblement National a essayé de lancer son campus Emera pour justement un peu en copiant un petit peu cette dynamique. On sait que Jérôme Sainte-Marie a eu un passé de trotskiste et que il a parfaitement conscience de l'importance de la formation en politique. Comment expliquer que, par exemple, le Rassemblement National n'arrive pas à créer cette dynamique-là ? Comment se fait-il que aucun universitaire, aucun intellectuel se soit par exemple servi du campus Emera pour se rapprocher de ce parti, alors que l'Institut de la Boétie visiblement arrive à fédérer, justement, comme l'a dit Rodolphe Carre, des intellectuels?
Moi, je dirais que c'est une question de troupe, hein. Et c'est vrai que l'université, bon, c'est assez ancien maintenant, depuis les années 60 au moins, est vraiment prise à partie par la gauche, et que la droite est quand même à l'université dans une citadelle assiégée. Donc, même si on peut pas dire, mais vous avez rappelé que les efforts qui ont été entrepris par l'URN, qui n'ont pas grand chose d'équivalent, par exemple, avec ce qu'a fait, peut-être c'est un modèle en Europe, de ce point de vue, Giorgia Meloni, qui a quand même bien davantage investi ces sujets culturels, pas tellement d'ailleurs à l'université, plutôt dans le monde de la culture, dans l'audiovisuel également, mais c'est certain que ça reste quand même assez largement un impensé à droite et surtout au RN, parce que le RN a plutôt un électorat qui évidemment n'a pas toujours fait de très grandes études, qui est surtout l'électorat productif français, l'électorat qui concrètement fait tourner les entreprises françaises qui vit pas toujours dans les grands centres urbains, donc ça s'explique assez simplement. Mais c'est certain que Jean-Luc Mélenchon, là, il a des relais que la droite n'a pas, y compris par exemple dans l'appareil judiciaire français, et à des niveaux qu'on peut supposer assez importants. Souvent, vous avez parlé de Monsieur Chapoutot, qui certes se radicalise, mais qui d'un autre côté est toujours admis dans le cercle de la raison. Il est toujours tout à fait respecté par les grands pontes de l'université française. Il n'y a pas du tout de mise au banc pour cet homme-là. Donc c'est quand même intéressant de voir une espèce de pénétration de ces milieux insoumis à l'université.
C'est marrant parce que peut-être que nous à droite on marche d'une autre manière, et disons que il faut aussi le remettre comme c'est, la France Insoumise, ou en tout cas l'Institut de la Boétie, permet aussi d'imposer des thèmes au reste de la gauche par la France Insoumise. Il faut aussi, ça leur permet justement de dire sur cette question il faut penser de cette manière, si vous l'êtes pas, vous êtes renvoyé dans le camp des affreux, ou en tout cas dans le camp de la droite. Mais peut-être que nous on a une autre manière de faire à droite, je viens d'y penser, c'est peut-être que nous, question programmatique ou question des idées, on le fait plutôt, j'ai l'impression, soit par des commissions, on l'a vu avec la commission à l'oncle, ou soit par des rapports, des études sur le coût de l'immigration, ce genre de choses. Donc c'est peut-être intéressant de voir que la production à droite ne se fait plus par les universitaires, parce que comme l'a très bien dit Valentin, ils nous sont relativement fermés, il y a quand même une peur toujours de s'afficher.
C'est vrai quand on voit par exemple des historiens comme Rénal Séché, des juristes comme Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch, il l'a raconté d'ailleurs dans leur série de Valeurs Actuelles sur Jean-Marie Le Pen, il racontait à quel point le fait d'avoir accueilli Jean-Marie Le Pen à Lyon dans les années 80 lui avait brisé sa carrière universitaire. Alors il dit, avec cette espèce de nonchalance tout à fait française, qu'il ne regrettait cela pour rien au monde, et que voilà, mais c'est vrai que c'est à partir du moment où, dans les années 80, c'était le cas, et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. Lorsque vous êtes un intellectuel, un universitaire, afficher une proximité avec le Rassemblement National, même ou l'UDR, ou Reconquête, ou que sais-je, eh bien, c'est le signe d'une mise à mort intellectuelle.
Ou alors, ça se faisait peut-être par des voies parallèles. Je vais vendre ma chapelle, peut-être avec la revue Éléments, qui a été aussi pourvoyeuse d'idées de droite, comme l'ont pu l'être d'autres, ou même, par exemple, on se rappelle du Club de l'Horloge, qui a pu aussi avancer sur un certain nombre de sujets. Je pense à l'immigration, ce genre de choses, ou même une critique du socialisme assez décerner. Donc oui, c'est intéressant de voir que la droite, pendant des années, a dû prendre un peu des chemins de traverse pour faire sa propre production industrielle, parce que c'était interdit pour nous de le faire de manière officielle, j'ai envie de dire, et universitaire. Donc peut-être qu'il y a dessus, il y a un chantier aussi à faire pour les années à venir et une officialisation, justement, pour faire avancer nos idées, si je puis dire.
On ferme la parenthèse. Alors, on me signale en régie que le standard n'est pas ouvert, donc si vous voulez intervenir dans cette émission, simplement à courtoisie@rc.fr par courriel, on lira vos questions bien évidemment à l'antenne. On va revenir sur Jean-Luc Mélenchon, parce que vous parlez justement de la prépa, de l'enjeu du second tour, et c'est un petit peu tout le paradoxe de la gauche aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon est la seule personnalité de gauche à l'heure actuelle à pouvoir accéder au second tour, mais c'est aussi dans l'esprit de tout le monde le seul qui est aussi sûr de le perdre, et vous n'avez aucune personnalité de gauche aujourd'hui. Alors on va peut-être parler un peu des autres candidats, mais aucune personnalité de gauche ne peut se prévaloir d'avoir une telle assise électorale. Rodolphe,
en tout cas, c'est l'argument justement, on va dire, de ceux qui sont un peu plus proches du centre. On a eu encore une fois un meeting à la Villette pour cette fameuse primaire
où la Bellevilloise,
voilà, c'est ça.
Ah,
exactement,
c'est original.
Voilà, c'est plus bobo tu meurs, donc c'est là, déjà rien que le lieu, vous aviez déjà un aperçu du problème général.
Après,
on va y revenir à la Bellevilloise parce que c'est très intéressant.
Après, Marc, c'est pas à toi que je vais apprendre qu'il y a un os pour Jean-Luc Mélenchon, qui est l'os sur lequel il n'a cessé de buter tout au long de sa carrière, et qui s'appelle François Hollande, ce qui est intéressant aussi, parce que on dit, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il y pense depuis 15 ans, depuis sa première candidature en 2012 à l'élection présidentielle. Je dis absolument pas. En réalité, il y pense depuis 2008, l'année à laquelle il part du PS, et même, j'ai envie de dire, depuis 2005. Parce que justement, 2005 devait être un peu le pronunciamento, vous en souvenez, c'est le fameux
référendum.
Sur le référendum.
Nos auditeurs s'en souviennent très bien, j'en suis persuadé.
et Jean-Luc Mélenchon était pour la ligne du non à l'époque, avec une autre personnalité, Laurent Fabius, et oui. Et justement, à l'époque, vous aviez François Hollande, on va dire, les classiques plus installés, qui votaient contre. À la suite de ce vote, Jean-Luc Mélenchon pensait justement pouvoir dévier de trajectoire le PS pour peut-être le récupérer. Il s'est rendu compte que c'était impossible parce qu'il s'est confronté notamment à des personnalités comme François Hollande. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est parti et qu'il a voulu faire, cavalier seul. Et dès cette époque, il n'a qu'un seul objectif, c'est la conquête du pouvoir. Il ne faut jamais sous-estimer à quel point l'autre phénomène politique de ces dernières décennies, avec la montée en puissance du Rassemblement National, c'est aussi la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise, c'est un parti relativement jeune, il date de 2016. Et pourtant, on voit à quel point il augmente de scrutin en scrutin. Et ne pas oublier que, par exemple, on sait que le Rassemblement National et notamment la France Insoumise surperforment chez les jeunes, que pour cette nouvelle élection, il va y avoir toute une flopée aussi d'une jeunesse qui va arriver, qui va voter pour la première fois. Donc c'est un des enjeux aussi, justement, de cette prochaine élection.
C'est un petit peu l'enjeu, effectivement. On a l'impression qu'en tout cas, tous les sondages le montrent, la jeune génération est beaucoup moins embarrassée par les nuances en matière politique, c'était même ça se joue de l'autre côté d'ailleurs aussi.
Bien sûr.
Il y a 20 ans, le vote Front National était honteux, on ne le disait pas. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sur TikTok disent sans aucun problème, je suis fan de Bardella, j'adore le RN et compagnie. Donc finalement, est-ce que cette jeunesse, justement, sur laquelle mise beaucoup la France Insoumise, est-ce qu'elle se répartit vraiment entre le RN et les filles Rodolphe Thiard et Valentin Gore, justement?
On sait que majoritairement, elles vont vers les extrêmes. Ensuite, il y a quand même, une inconnue, c'est celle de la mobilisation à aller voter. On sait que c'est quand même une catégorie qui sous-vote, notamment par rapport aux retraités. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, vous me direz, c'est pas une nouveauté que les jeunesses tranchent plus par la radicalité, par les extrêmes, ce genre de choses. En revanche, pour revenir à mon propos du début de notre table ronde, vraiment cette volonté, je pense, pour Jean-Luc Mélenchon, qu'après cette élection, même en cas de défaite, on arrive à une nouvelle reconfiguration vraiment de la vie politique, où on sorte de cette tripolarisation, de ces trois blocs, pour qu'on arrive vraiment à un affrontement clair, bloc de gauche, bloc de droite, où Jean-Luc Mélenchon prendrait la tête justement de ce bloc de gauche. Ça, je pense par contre que c'est une stratégie à long terme. Et d'ailleurs, quand Valentin mentionnait cette réunion justement avec les nouveaux médias, là, on est aussi dans cette logique de faire émerger des nouvelles pépites, justement, des nouveaux médias d'information culturelle, pour faire un peu le pendant, on va dire, au service public, qui est relativement au service du bloc central, sans faire, d'abus. Donc, ça, c'est une volonté pour Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment d'arriver à cette nouvelle polarisation, et ça s'appuiera aussi, notamment, sur la jeunesse, via le numérique, etc. Oui.
Pour vous, Valentin, ce qui s'est passé à Bellevilloise, donc finalement, j'avais envie de dire, le rassemblement de toutes les gauches, ton mélenchoniste, enfin, en tout cas, de ceux qui ne sont pas assez forts pour se passer de la primaire pour la dire de manière polie, ou alors on peut reprendre les mots que Clémentine Autain a prononcé sur scène. La question ce soir, c'est de savoir si ce 5 mai est le chant du cygne ou le sursaut. Chant du cygne.
Oui, chant du cygne, oui. Parce que si vous voulez, c'est des gens que l'histoire va oublier assez vite, parce qu'ils pensent qu'en rassemblant leur petite force, ils vont faire jeu égal avec quand même incontestablement ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant 20 ans, hein, vous l'avez dit, qui est un vrai travail à gauche. Et je crois que là où Mélenchon a raison, le pari qu'il a fait, vous l'avez dit, c'est qu'il parie sur une forme de latino-américanisation de la France. Oui. Il est évidemment influencé par le Venezuela, pas que. Et ce qu'on remarque quand même depuis, en gros, le début des années 2000 en Amérique du Sud, dans à peu près tous les pays, c'est que vous avez une bipolarité extrêmement violente entre une gauche assez radicale qui s'appelle Lula au Brésil, qui s'est appelé Michel Bachelet au Chili, qui s'est appelé Kirchner en Argentine, et puis de l'autre côté, une droite là aussi extrêmement forte, Bolsonaro, aujourd'hui Milei en Argentine, etc. Le nouveau président du Chili aussi. Et c'est sans doute le destin qui attend la France. C'est-à-dire que petit à petit, ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace central, il va se restreindre parce que c'est un monde, c'est un électorat âgé qui peu à peu, vous l'avez dit, va être avalé par des jeunesses, deux jeunesses en France, à mon avis, qui ont envie, en tout cas, de choix beaucoup plus affirmés d'un côté et de l'autre.
En même temps, on vote extrême quand on est jeune et puis on s'assagit avec le temps. C'est le Parti Socialiste, c'est mieux que personne, puisque ils admettaient parfaitement que leur jeunesse à 18 ans, je militais dans les ministres trotskistes, et après les plus brillants d'entre eux à 40-45 ans finissaient députés voire ministres, Rodolphe.
Oui, c'est vrai que vraiment pour le coup cette sud-américanisation de la vie politique française, c'est vrai que dernièrement je suis revenu dessus et c'est incroyable à quel point les parallèles sont de plus en plus flagrants. Et d'ailleurs, le laboratoire politique de Jean-Luc Mélenchon, dans la période des années 2000, là où il va aller prendre son logiciel, vous l'avez très bien dit, c'est sur le Venezuela, c'est sur le chavisme et la révolution bolivarienne. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il se rend compte d'une chose, c'est qu'on peut démultiplier, la vague sociale si on lui adjoint deux choses, le côté religieux de la foi. Alors, dans le continent sud-américain, c'est la foi catholique, on va dire, c'est la fameuse théologie de la libération. Donc là, c'est un peu un hybride qu'il est obligé de faire en France, parce qu'on imagine que... Enfin, il a même fait une attaque récente sur les ouvriers blancs catholiques, justement, qui pouvaient plus aller récupérer. Mais en revanche, l'autre, dimension, et là, vraiment, il l'a, adossé à son projet politique, qui reste toujours de base, il n'empêche, social, c'est le conflit ethno-culturel. Avec vraiment, comme vous l'avez très bien dit, une élite... sud-américaine largement blanche, descendante d'Européens, et de l'autre côté vraiment une opposition avec les Indiens, si on reprend le logiciel notamment vénézuélien, ou les fameux laissés pour compte. Donc c'est intéressant, c'est qu'il essaye vraiment de revenir sous une forme de populisme qui mélange à la fois ces trois enjeux, et c'est vraiment intéressant, oui, comme on va peut-être arriver à nouveau à cette opposition de plus en plus vraiment frontale et violente entre d'un côté un bloc de gauche, bloc de droite. Là-dessus il faudra peut-être revenir là-dessus, parce que l'affrontement bloc populaire, bloc élitaire n'a peut-être pas rendu aussi l'âme, justement, la catégorie qui tient à cœur à Jérôme Sainte-Marie, mais on va peut-être, déboucher vers un hybride avec des formes de violence, des formes d'affrontement de plus en plus assumées, notamment du côté de Jean-Luc Mélenchon.
Et c'est un peu la question à 100 000 euros qui vient après. Je sais pas si vous avez lu, Valentin Gore, la lettre de Rastignac de cette semaine.
Oui, bien
ou de
sûr.
La sur Jean-Luc Mélenchon.
De cette semaine.
Et ce qui était intéressant dans cette réflexion, c'est finalement lui qui aime tant jouer au diable, à quel dieu se raccroche-t-il aujourd'hui ? C'est un peu la question. Je ne sais plus si vous aviez répondu vraiment à cette question dans votre livre, Rodolphe. En tout cas, il y a des clés pour y répondre. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est vraiment dans une démarche intellectuelle structurée où il croit foncièrement en ce qu'il fait ou en ce qu'il dit, ou alors il est vraiment juste sur une espèce de quête éperdue du pouvoir à n'importe quel prix et quel qu'en soit le coût ?
Je peux...
Bien sûr.
Moi, pour le coup, j'avais vraiment... le sous-titre de mon livre, c'était « Portrait d'un révolutionnaire avec un S ». Donc, je fais un peu une série de portraits. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me posait la question « Mais quel est le portrait
la synthèse.
Qui prévaut par-dessus les autres. » Et c'est vrai que moi, je disais que c'était celui du stratège. Il y a une volonté, depuis le départ... c'est d'exercer ce pouvoir et de prendre le pouvoir. Jean-Luc Mélenchon a envie de le faire. Et d'ailleurs, à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il entre sous les ordres de Lionel Jospin, feu Lionel Jospin, d'ailleurs, c'est, la phrase un peu pour se dédouaner en disant bah oui, j'ai eu mon passé trotskiste, mais par contre bah j'accepte au pouvoir, j'accepte de prendre le levier de pouvoir quand on me l'offre. Donc là-dessus, il y a vraiment jamais eu une quelconque pudeur à se servir du pouvoir et à l'exercer. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas un jouisseur de la politique. On en connaît toute une série, des gens qu'ils ne veulent pas forcément, mais qui vivent plutôt bien, qui aiment bien la célébrité, ce genre de choses, l'exposition, le pouvoir. Mmh. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a vraiment, pour le coup, une aspiration naturelle et sincère à l'exercice du pouvoir. Donc c'est pour
pardon,
ça...
pardon d'être cru, mais ça l'excite pas tant que ça, quoi, en fait. Enfin, le pouvoir l'excite pas tant que ça, quoi.
Bah, non, en réalité, je pense... Enfin, c'est pas que ça l'excite. Là, pour le coup, souvent, on dit la quête, le chemin vaut mieux que l'arrivée. Non, non, Jean-Luc Mélenchon veut être à l'arrivée, il veut prendre le pouvoir et il veut exercer une politique. Et ensuite, quant à ses évolutions, pareil, son premier livre, c'était À la conquête du chaos. C'était une volonté de se déclarer marxiste, comme il l'a toujours été, mais par contre, un marxiste, on va dire, hétérodoxe, qui, justement, essayait de prendre un peu... comment dire, la température de son temps, et de voir qu'en réalité, eh ben, on n'allait pas suivre un chemin linéaire, dictature du prolétariat, société communiste, etc., etc. Et justement, lui a beaucoup insisté, et d'ailleurs, je vais être un peu provocateur, ça m'a fait penser à un autre penseur qui est complètement de l'autre côté de l'échiquier politique, qui était Dominique Vénère, qui parlait souvent d'imprévu dans l'histoire. Et Jean-Luc Mélenchon, dans ce livre-là, revient souvent sur les mouvements d'imprévu dans l'histoire, où en réalité, il se passe quelque chose. Et là, c'est ceux qui sont à l'avant-garde, qui arrivent, enfin en tout cas, qui avaient préparé au mieux le terrain pour justement l'influencer. Et c'est vraiment cette notion d'imprévu, c'était... J'étais même moi le premier surpris à quel point Jean-Luc Mélenchon l'avait pensé. Il ne sait pas comment va se dérouler l'histoire, mais par contre, il va se passer des événements. Et pour les appréhender le mieux possible, parce que les sociétés humaines sont des choses ductibles, c'est-à-dire qu'on peut transformer selon les volontés humaines, eh ben, il faut être à l'avant-garde et il faut avoir préparé sa base pour pouvoir les influencer.
Finalement, il a lu Hegel, quoi. Quand l'histoire ne trouve pas de héros, elle les fabrique.
Exactement, c'est ça.
Cette pensée-là. Valentin Gore. Vous partagez un petit peu
ou totalement. Non, je trouve très intéressant ce que vous avez dit. Évidemment qu'il y a cet aspect. On le voit très bien. Vous parliez d'imprévu. On le voit avec Gaza. L'utilisation, enfin, je veux dire, qui est tombée pour Jean-Luc Mélenchon à point nommé, qui le pousse totalement. Là, vous parliez du vote des jeunes, vous parliez du vote des banlieues. Il est ancré avec Gaza. C'est-à-dire ces gens-là qui avancent, disent, oh, est-ce que ça vaut le coup d'aller voter? On l'a vu au municipal. Maintenant, ils vont voter. Parce que ça les énerve. Ça les agace terriblement, et ça, ils vont aller voter.
Est-ce
avec
que ça va durer?
Est-ce que ça va durer? Je crois que oui, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a quand même réussi à développer, c'est son ancienneté aussi qui fait ça, c'est le charme de l'ancienneté. Une relation avec ses électeurs, qu'il appelle, comme d'aucuns le faisaient avec Mitterrand, le vieux, ou bientôt ce sera peut-être tonton, et donc il a une espèce de sympathie instinctive, ou même j'ai l'impression que son électorat comprend ce qu'il fait. Quand il essaie de se recentrer un peu comme il fait en ce moment, son électorat comprend. Il comprend qu'il est intégré aux stratégies de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une espèce de communication qui passe avec son électorat qui est quand même très, très étonnante et forte.
Rodolphe.
Et même pendant l'affaire du meurtre de Quentin Doranc.
Absolument.
Où là, on a vu vraiment un bloc de gauche parlementaire du parti autour de Raphaël Arnaud. Et attention à celui qui laissait passer un doigt, justement. Et d'ailleurs, on l'a vu à quel point aussi il avait une emprise, j'ai envie de dire, sur les autres mouvements de gauche. Parce que là, pareil, il fallait qu'aucun des candidats qu'on a mentionnés juste avant, Marine Tondelier, François Ruffin, Olivier Faure, justement, fasse défection. C'est vraiment... important de rappeler à quel point Jean-Luc Mélenchon a la mainmise sur son parti politique, mais aussi sur, on va dire, la production des idées avec l'Institut de la Boétie, et aussi c'est avec ses liens avec la Jeune Garde. Ne jamais oublier de rappeler que les liens qui ont été noués avec la Jeune Garde à partir de son lancement, on va dire à partir des années 2016, 2017, 2018, ça permet aussi à Jean-Luc Mélenchon de prendre la main quelque part sur le mouvement social en France. Et d'ailleurs, on a même vu des affrontements, vous en souvenez, lors de la réforme des retraites, où cette fois, la CGT avait réussi à reprendre un peu du poil de la bête et justement à mettre un peu en dehors les partis. Mais là, il faut aussi rappeler qu'au sein de la gauche, il y a des affrontements pour justement conduire ces mouvements sociaux.
Pour le contrôle de la rue, mais d'ailleurs, c'était ça qui était insupportable à la France insoumise à l'époque des Gilets jaunes. C'était de voir justement la rue lui échapper et de voir comment tout... Alors, pas forcément la France Insoumise personnellement, mais tous ces réseaux se sont activés pour justement aller pourrir la rue, entre guillemets, et envoyer ces milices antifas justement reprendre le contrôle, redériver le message quand même des Gilets jaunes, qui était quand même un message essentiellement libéral, et on est passé en fait du libéralisme à on veut le RIP, le RIC, ou je ne sais plus quel artifice de référendum. Ça a toujours été ça l'enjeu de la gauche, Valentin Gore, c'est le contrôle de la rue.
Oui, vous parlez, bien sûr, vous parlez de
au sens imagé, au sens...
Bien sûr, non, mais tout à fait. Vous parlez des Gilets jaunes, et c'est très intéressant. On se souvient des mots quasiment, j'allais dire amoureux, que Jean-Luc Mélenchon avait eu pour Éric Drouet, qui, à un moment donné, pendant 15 jours, 3 semaines, ce chauffeur routier de Seine-et-Marne, qui avait été un peu l'étendard des Gilets jaunes. Ça n'a pas duré, puisqu'évidemment, ce mouvement n'a jamais réussi à se solidifier autour d'une personnalité. Mais oui, il l'a vu s'échapper, et je crois que ça lui a fait beaucoup de peine, parce qu'il était à ce moment-là encore un peu dans la suite de 2017, avec un logiciel un peu plus souverainiste, peut-être, j'allais dire, un peu plus français. Mais c'est presque ça, oui, c'est presque ça. Donc effectivement, là, je crois qu'il a tiré aussi les leçons de son échec au moment des Gilets jaunes, qui a été total. En grande partie, vous l'avez dit, Marc, parce qu'il n'a pas compris ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire que c'était plutôt une révolution de droite, si ça existe.
Et c'est un peu ce combat qu'essaie de poursuivre François Ruffin, en fait. Ce que fait François Ruffin aujourd'hui, alors pour le coup, pour avoir été à son meeting à Montreuil l'année dernière, c'était fascinant. C'était la campagne de Mélenchon 2017 qui est en train de se rejouer, mais trop tard, en fait.
Oui, et il y a même plusieurs traumatismes aux Gilets jaunes. C'est aussi la non-venue d'une partie des banlieues. D'ailleurs le parti des indigènes, et notamment Ouria Boutelja, qui ont pas mal théorisé pourquoi les banlieues ne se sont pas bougées justement pour entrer dans la valse, on va dire, des Gilets jaunes. Et même mentionné qu'à l'époque, souvenez-vous-en, au début des Gilets jaunes, on a en même temps la signature du pacte de Marrakech. Il y avait même une possibilité d'adjoindre, et je pense que c'est le logiciel demain populiste qui sera vainqueur, c'est à la fois d'adjoindre le populaire et l'identitaire. Et à l'époque, les revendications qui ont été faites sur le pacte, elles ont très vite été sorties. Et vous en souvenez même, il y avait des Gilets jaunes qui arrêtaient ou qui avaient dénoncé des migrants à Calais, par exemple. Donc vous voyez, il y avait vraiment une porosité et quand même un mouvement de masse qui pouvait très vite échapper justement à la gauche. Et comme Marc l'a très bien dit, il a tout de suite été gangréné, réorienté. On sait que notamment toute une partie des Frexiteurs de Florian Philippot étaient sortis Manu Militari, justement, des manifestations. Dès qu'il y avait un drapeau français, c'était sujet un peu à caution comme cela. Donc oui, c'est intéressant de voir vraiment à quel point il a réussi à reprendre une partie du mouvement social. Et la dernière caricature, parce que comme le dit très bien Marx, justement, tout se rejoue en farce, ça a été le mouvement Blocoton, qui était un mouvement d'aspiration plutôt fiscale et souverainiste. Ça a complètement été repris avec justement une volonté de continuer un peu Gaza et l'après 7 octobre avec le palestinisme de la France insoumise. Et au final, le mouvement a vraiment fait absolument rien. Juste la gauche ultra-militante est sortie dehors, donc ce qui n'a débouché sur rien et sur aucune aspiration populaire. Donc là, c'était vraiment la caricature, parce qu'ils avaient repris le mouvement avant qu'ils partent, et quand ils l'ont repris, le peuple français ne s'est pas bougé.
C'est un petit peu la question de l'œuf et la poule, mais si l'extrême gauche a pu aussi investir la rue et d'aller pour le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce qu'en droite, il y a eu une espèce de frilosité énorme vis-à-vis de ce mouvement-là. Donc à la fois, on se dit, en même temps, heureusement que le RN, par exemple, ne s'est pas trop avancé sur ce sujet-là, parce qu'ils auraient été comptables de toute la case de l'extrême gauche. Et en même temps, le fait qu'ils n'y soient pas allés, ça a aussi permis à l'extrême gauche de s'y déployer politiquement. En fait, il n'y a pas vraiment de solution pour la droite sur ce sujet-là.
Peut-être que la droite, malheureusement, vivait aussi dans le traumatisme de la manif pour tous. Malheureusement, là-dessus, la France, enfin en tout cas la droite, ça a été un de ses derniers sursauts, ou en tout cas vraiment un sursaut de masse auquel il faut rendre hommage, je pense, cette volonté d'aller dans la rue. Mais il y avait des familles, il y avait des militants, mais c'était vraiment ouvert, et c'était vraiment quelque part le peuple de droite, pas n'importe quel peuple de droite. Majoritairement catholique, d'accord, mais il n'empêche peut-être qu'il y avait encore ce traumatisme.
Le peuple conservateur.
Voilà, et on se souvient aussi, de la brimade qu'avait subi aussi ce mouvement bien avant les Gilets jaunes, où là, vous en souvenez, c'était les canons à eau contre des pauvres catholiques qui ne demandaient rien. Et on a un peu connu ça, vous en souvenez, au moment des dernières lois euthanasie où on avait les veilleurs, c'était, il me semble, qui faisaient des réunions, somme toute, assez pacifiques.
Absolument.
À chaque fois, elles se faisaient, sortir de la rue,
Manu Militari.
Exactement.
Absolument. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, candidat avec son présidentiel de 2027, ça, c'était l'information à ne pas rater cette semaine, puisque ça va évidemment beaucoup compter dans cette course politique qui s'annonce. Merci Rodolphe Thiers d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous recevons France Gouttière, avec qui nous reviendrons sur ce drame familial dans la région nantaise. Mais en attendant, petit message de votre radio et petite pause musicale.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Toujours dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore et nous accueillons France Gouttière. Bonsoir France.
Bonsoir Marc, bonsoir Valentin.
Vous travaillez donc pour le service de VA Région et donc vous sillonnez un petit peu les routes de France. Et là, vous étiez très récemment à Saint-Étienne-de-Montluc en Loire-Atlantique, où s'est déroulé un drame. Donc depuis le 27 mars, l'éleveuse Manon Rolandeau a disparu de la commune de Saint-Étienne-de-Montluc près de Nantes, alors que son compagnon, lui, Abdelkarim B, est détenu en Algérie. L'enquête s'enlise dans les brumes de la Loire-Atlantique entre omerta locale et complexité diplomatique d'une affaire hors norme. Concrètement, une agricultrice qui disparaît, son compagnon s'enfuit en Algérie et est détenu là-bas. Que s'est-il passé ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est donc effectivement Manon Rolandeau, qui est une jeune agricultrice de Loire-Atlantique, qui était installée depuis 4 ans dans le secteur de Saint-Étienne-de-Montluc et qui élevait des vaches nantaises. Donc, c'est une race bretonne qui est en voie de disparition, mais qui a été remise au goût du jour par quelques passionnés. Et donc, cette jeune femme et aussi mère de famille, ça, on va le voir par la suite, a disparu là depuis plus d'un mois et demi et n'a plus donné aucun signe de vie. Et là, en plus, il y a eu un rebondissement parce que son compagnon, donc Abdelkarim B, vient d'être incarcéré en Algérie parce qu'il avait pris la fuite quelques jours après sa disparition en se rendant à l'aéroport de Nantes et en emmenant leur fille de 15 mois sous le bras, donc Inaya, et qui a été reprise par les enquêteurs en Algérie.
Alors évidemment, les enquêteurs français craignent le pire, en fait, puisque cette disparition peut être synonyme, en réalité, peut entraîner une mise en examen pour homicide. En tout cas, on ne sait pas, évidemment, mais tant que le corps n'est pas retrouvé, qu'elle n'est pas retrouvée vivante ou morte, évidemment, la question reste en suspens. Comment est-ce que c'est arrivé ? Parce que, Quand on lit un petit peu les témoignages ça et là, enfin vous allez nous en parler, mais on a l'impression que c'est comme souvent dans ce genre d'affaires, tout le monde soupçonnait quelque chose, que ça allait pas très bien entre eux, qu'il y avait des bizarreries, mais en même temps on n'en parlait pas.
Oui, effectivement. La famille a confié à plusieurs médias que le couple ne fonctionnait pas normalement, que lui faisait des colères extrêmement régulièrement. Et moi, ce que j'ai vu sur place, c'est que plusieurs sources m'ont dit. Effectivement, lui, en fait, depuis qu'il était arrivé dans sa vie, elle avait changé de comportement. Par exemple, il était allé voir tout le voisinage pour dire ses conditions et leur dire texto « si vous voulez parler à ma femme, vous passez par moi ». Alors qu'elle avait énormément besoin d'être en contact avec les gens puisqu'elle vendait à domicile sous forme de colis sa production, alors que lui ne travaillait pas et vivait à ses crochets.
Oui, d'ailleurs, il était un habitué du bar tabac du village, quoi. C'était quelqu'un qui travaillait pas, qui était assez oisif. Mais justement, donc, il côtoyait des gens du village. Et au-delà, donc, cette décision d'être un barrage entre sa femme et l'extérieur, lui-même, donc, il avait des liens, quand même, avec les gens du village. Et qu'est-ce qui rejaillit de sa personnalité quand vous interrogez les...
Bah alors, pas grand-chose, parce que c'est vrai que les gens sont assez frileux. Il y a une sorte de mutisme à parler de lui. Alors, parce que pour elle, là, les gens sont unanimes en disant qu'elle était très courageuse, très travailleuse, douce, bienveillante, passionnée par les animaux. Mais bah, notamment, je suis allée voir le buraliste qui voulait pas du tout en parler, alors que c'est celui qui l'a sûrement, le commerçant qui l'a côtoyé le plus. Ouais. Et qui dit, mais les gens disent qu'il était bizarre, grosso modo, qu'il était encore plus réservé qu'elle.
À quoi, alors vous en avez interrogé beaucoup, donc vous êtes heurté à cette omerta. Est-ce que vous avez une hypothèse sur les raisons de cette omerta? Enfin, qu'est-ce qui empêche les gens de se confier, d'en parler? C'est la peur des médias, la peur de la déformation de leurs propos? C'est qu'est-ce qui rejaillit tout ça?
Bah alors effectivement, le buraliste, la seule chose qu'il m'a dit qu'il a glissé, c'est ça va vite. Donc la peur que ce soit repris, déformé par la machine médiatique. Moi, la question que je me pose sur cette omerta locale, parce que j'ai essayé de contacter également l'association Citadelle, qui est une structure de la ville de Nantes, et en fait, on a appris dans la presse que Manon Rolando avait tiré la sonnette d'alarme, puisqu'elle avait contacté cette association, et en fait, elle n'a jamais pu honorer le rendez-vous.
C'est une association d'aide pour femmes battues, quoi.
D'accompagnement voilà, des femmes victimes de violences. Donc, une grosse structure, quand même, de la municipalité. Et en fait, elles n'ont pas voulu me répondre en disant, voilà, en se protégeant derrière le côté, il y a une enquête en cours, une enquête judiciaire. Ouais. Et donc voilà, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est dû à une collision entre deux dogmes, l'immigrationnisme et le féminisme? Et les gens, voilà, sont quand même très frileux, puisqu'on a appris que le principal suspect était de nationalité algérienne.
Ouais. Et ça a dû jouer, quoi. Les gens n'ont pas voulu passer éventuellement pour. Avaient peur de l'accusation de racisme, de candidaton, etc. Pour vous, ça a joué, ça, a priori?
Ouais, pour moi, il y a effectivement ce côté-là, et je pense que donc ça fait de la cause des femmes quand même un peu la grande sacrifiée de cette affaire.
J'avoue que je connais la Loire-Atlantique et pas le département que je connais le mieux. Saint-Étienne-de-Montluc, on est sur une commune mixte pour parler avec des mots modernes. On est sur plusieurs communautés, ou c'est une ville au contraire assez uniforme, quoi. Enfin, est-ce que c'est pas une ville avec forcément beaucoup d'immigration pour moi?
Non,
il n'y a pas forcément deux communautés en chien de fusil qui s'observent.
Non, pour le coup, non, mais il y a évidemment la proximité avec la ville de Nantes. Et d'ailleurs, Abdelkarim Bey viendrait à l'origine de Bellevue, à Nantes.
Le quartier Bellevue.
Voilà, et ils auraient pu se rencontrer dans ce cadre-là avec Manon Rolando.
C'est quand même incroyable ces faits divers, Valentin Gore, parce que c'est des micros événements, mais qui en disent tellement long sur l'état de la société.
Bien sûr, ça c'est quelque chose d'assez ancien qu'on a vu dans la fiction, par exemple avec Georges Simenon, c'est ces atmosphères que vous avez retracées dans cette métropole nantaise qui effectivement a beaucoup changé, a changé de visage, est devenue une terre où règne beaucoup d'insécurité, ce qui n'était pas le cas avant dans cette partie de la France. Comment vous sentez, vous qui connaissez bien France Gouttière, cette région, de façon plus générale, si on s'extrait un instant de ce sujet au combien grave, comment vous sentez cette agglomération nantaise? Vous parliez par exemple de gens qui déménagent, qui vont un petit peu plus loin du centre. Ça, vous le vivez au quotidien, vous qui êtes, je crois, même nantaise, hein?
Oui, bah alors moi, par exemple, j'en suis un exemple vivant. Mes parents ont déménagé depuis 7 ans de la ville de Nantes. Ah. Et effectivement, et c'est le cas aussi de beaucoup de familles avec des jeunes enfants qui décident de déménager à proximité de Nantes par peur de l'insécurité et de ses conséquences.
Alors pour revenir à l'enquête, donc pour l'instant, cette jeune femme a disparu. On suppose que les enquêtes se poursuivent. On en est où là? Qu'est-ce qui pourrait aiguiller les enquêteurs?
Alors, on m'a dit que en ce moment même, les enquêteurs se concentraient sur la zone du Marais, justement, parce qu'il y a un drone thermique qui a été mis en place et qui détecte en fait la nuit des différences de température dans les sols, ce qui permet aux enquêteurs d'orienter leurs recherches. Il y a notamment eu aussi. En fait, ils ont commencé d'abord par la terre avec aux alentours de la propriété de Manon Rolando. Ils ont mis en place quand même beaucoup de moyens techniques. Il y a eu également un déploiement de plongeurs. Et voilà. Et en revanche, pour ce qui est de l'enquête, bah, y a la peur évidemment qu'elle commence à s'enliser plus le temps avance. Et puis effectivement, il y a la crainte des liens avec l'Algérie. Comment la collaboration va s'opérer entre les autorités françaises et algériennes?
Et ce qui est fou, sur une note peut-être un poil plus légère, c'est que quand on relate certains témoignages, il y en a même qui disent Vous savez, on la connaissait pas très bien. Elle est là que depuis 4 ans et puis elle était vendéenne. Enfin, c'est des réflexions. C'est, moi, c'est des réflexions que j'ai déjà entendues en Corse. Vous savez,
bien sûr.
Les voisins, on les connaît pas. Ils sont ici que depuis 20 ans. Tu vois, il y a quand même un aspect territorial hyper bien fort. Sûr. Et du coup, on est vraiment sur des micro communautés en fait qui ont pas envie de, forcément d'interagir les unes avec les autres. En fait, c'est cette omerta de village quoi en fait qu'on vit aussi.
Oui, et parce qu'en fait, là, on parle vraiment du monde agricole. Je suis allée voir un horticulteur et c'est lui qui m'a dit effectivement elle n'était là que depuis 4 ans et elle est originaire de Vendée, donc elle venait de Chantonnay, donc en fait il dit on la connaissait pas et il faut du temps en fait, il faut vraiment beaucoup de temps pour pouvoir s'implanter dans ce genre d'atmosphère.
Ouais.
Et en plus bah, elle avait la contrainte de cet homme qui ne l'a pas du tout aidé à s'intégrer.
Le racisme systémique des Nantais vis-à-vis des Vendéens, ça on n'en parle pas assez mais c'est quand même quelque chose de terrible. Ouais. Donc pour l'instant, donc une enquête est simplement ouverte pour disparition. Il n'y a pas encore eu de d'homicide, etc. Parce que par exemple l'affaire j'ai oublié le nom de cette affaire aux assises de cette jeune femme qui avait disparu.
Delphine Jubilard.
Oui,
bah,
dans l'affaire Jubilard, même si le corps n'a jamais été retrouvé, il y a quand même eu une enquête ouverte pour homicide.
Alors je vous corrige, si le parquet a ouvert une enquête pour crime.
Merci.
Et pour enlèvement aussi concernant la petite fille du couple. Et il y a déjà eu donc avant celle d'Abdelkarim B, deux mises en examen en France de deux complices présumés, donc Sofiane et Chourouk, qui sont des proches du principal suspect et qui l'auraient aidé entre le moment de la disparition de Manon et son départ vers l'Algérie, donc l'aide à la fuite plus aider à faire disparaître les preuves.
Donc il a bénéficié de complicité. Cette petite fille, donc la fille du couple, on est sûr qu'elle est en Algérie avec son père aujourd'hui.
Oui, les enquêteurs ont remis la main sur elle se trouvait chez la grand-mère paternelle près de Blida.
Merci beaucoup France Gouttière d'avoir été avec nous pour faire un point justement sur cette affaire qui avait particulièrement choqué bien évidemment la Loire Atlantique, mais qui avait aussi marqué la France puisque de nombreux sujets ont été réalisés là-dessus. Merci à vous, à très bientôt. On revient vers vous dans quelques instants, chers auditeurs. Tout d'abord, un petit message de votre radio.